L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain. Et nous avons encore une fois cette grâce de recevoir Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Merci pour cette disponibilité, ce temps de sacrifice. Que le Seigneur te bénisse, te rende au centuple. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole. Dispose nos cœurs, Seigneur. Bénis les différentes radios qui nous assistent dans cette mission. Bénis les différents auditeurs. Bénis Jonathan Junior Mambou. Bénis, Seigneur, ta parole, ton message. Nous voulons disparaître. Nous voulons que toi seul paraisse, que l'homme ne paraisse plus, mais que le Dieu vivant parle au travers de ce message. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Nous sommes toujours sur la parabole du Samaritain. Jonathan Junior, qu'est-ce que tu peux nous dire que le Seigneur t'a mis à cœur sur cette parabole du Samaritain de Luc 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35?
Nous sommes en train d'évoluer et là nous sommes en train de montrer déjà le travail du Samaritain, le travail qu'il a fait. Et notre grande question ici, c'est par rapport à la leçon que nous tirons et où nous nous posons cette question. Pourquoi le sacrificateur qui avait vu cet homme tomber entre les mains des brigands est passé outre? Pourquoi le Lévite est passé outre? Et pourquoi le Samaritain a fait quelque chose? Pourquoi? C'est en fait à ce niveau-là que nous sommes en train de tourner pour tirer quand même une leçon. Il y a des leçons. La première leçon à laquelle nous développons pour l'instant, c'est le fait que lorsque nous regardons cet acte, ce comportement de ces trois personnes, nous comprenons que le bon Samaritain, c'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth, qui devait faire le travail que les hommes de la terre ne pouvaient faire. Et parmi ces hommes de la terre que Dieu a utilisés puissamment, il y a des sacrificateurs à l'image de celui qui est passé. Il y a aussi le Lévite qui est aussi un serviteur. Il y a, en fait, les Lévites, c'était ce peuple mis à part pour le Seigneur. Mais en fait, je les regroupe dans une catégorie où j'associe également les rois, j'associe également les prophètes qui ont été des guides du peuple, qui parlaient de la venue du Samaritain, en fait, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils n'ont pas apporté le salut. Je vais lire ce verset de Malachie chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants, le jour vient, les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. » Et la guérison, voilà le mot qui m'intéressait, la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il y a un temps. Mais pour l'instant, nous l'appelons aussi le soleil de la justice parce qu'il nous a apporté la guérison de l'âme. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde, il nous considère juste. Pas parce que nous aurions pratiqué des actes de justice, non. Mais c'est seulement à cause de lui, Jésus, à cause de notre foi en lui. Et il nous a apporté cette guérison. Et même s'il arrivait que Christ tardait de revenir et qu'on mourait maintenant, eh bien, nous régnerons avec lui, le soleil. Parce que le soleil, quand il fait midi, ça pique. En fait, c'est ce soleil-là que nous voyons. Il y a un temps où le soleil va vraiment régner sur cette terre. et nous régnerons avec le Seigneur. Et quand on dit on foulera les méchants, c'est-à-dire que nous aurons le pouvoir de dominer dans ce monde. Mais ce temps-là n'est pas encore venu. Mais pour cela, présentement, le Seigneur est en train de guérir les âmes, guérir les hommes, hein, guérir choses que ses prédécesseurs n'ont pu faire. Voilà pourquoi nous comprenons que le comportement du sacrificateur et du lévite enseignait aussi cette réalité, cette incapacité. C'est la chose que le roi Hérode n'a pas compris quand Jésus-Christ est né. Il a décidé de tuer tous les enfants. En fait, dans son cœur, il voulait que Jésus soit éliminé. Mais il oubliait que c'était la personne qui était venue accomplir ce que les autres ne pouvaient pas accomplir. Ainsi, la colère du roi Hérode ne pouvait rien faire. Rien du tout. Il y a un verset que j'aime bien, que beaucoup de gens aiment bien aussi, dans Job chapitre 19, où Job dit ceci. Il parle d'un rédempteur au verset 25. Il dit ceci, je commence au verset 25. « Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. » Et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit au-dedans de moi. En fait, Job parle d'un rédempteur. Il dit, il se lèvera le dernier jour. En fait, personne, aucun sacrificateur n'a été appelé rédempteur.
Et il n'y en aura jamais.
Ah. Même le Lévite, là, on ne pouvait pas l'appeler rédempteur. Je les mets dans le même groupe. Aucun roi n'a été appelé rédempteur.
Aucun prophète.
Aucun prophète n'a été appelé rédempteur.
Aucun pape.
Vous voyez, c'est une preuve qu'il n'y a que lui qui est le bon samaritain. Il n'y a que lui. C'est lui que nous appelons le soleil de la justice, parce que le soleil aussi a été créé le quatrième jour. Et l'éternel, pour les juifs, est leur rédempteur. Tout ça aussi, c'est important qu'on puisse souligner
voilà
cela.
Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est Dieu.
Oui. Ésaïe chapitre 47, verset 4. Lisons ce verset. Ésaïe 47, verset 4. Ça, ce sont des passages qui nous amènent à comprendre que Jésus, c'est pas quelqu'un à regarder comme tous les hommes. Ésaïe 47, verset 4 nous dit ceci. Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël.
Le Saint d'Israël. Or, tu retrouves, par exemple, dans les évangiles, les démons qui disent à Jésus, tu es le Saint d'Israël.
Oui, le Saint de Dieu. Hein? Notre Rédempteur. Donc, pour les Juifs, s'ils ont tué Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais comment ce type peut s'identifier à l'Éternel? Hein? Ésaïe 43, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Votre Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est de cette manière qu'il se présente, hein, le Rédempteur. Mais lorsqu'on lit le Nouveau Testament, par exemple Éphésiens chapitre 1, on peut se poser maintenant des questions pour savoir il y a combien de Rédempteurs finalement. L'Éternel, il est Rédempteur. Verset 7, en lui nous avons, en lui Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Jésus, il est le Samaritain. Il est cet homme qui devait apporter le salut. Il est cet homme qui devait apporter la vie. Il est cet homme qui devait apporter la rédemption. Il n'y a pas de rédempteur. L'Éternel des armées, Jésus de Nazareth, c'est lui le rédempteur dont les hommes ont cherché. Ça, c'est très important. C'est très important qu'on puisse souligner ces exemples. Hébreux chapitre 9, verset. Dans la seconde partie du tabernacle, le souverain sacrificateur seul entrait une seule fois par an, non sans y apporter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. C'est ce qui se faisait. Il offrait le sang pour lui-même parce que c'était un homme, le sacrificateur. Le Saint-Saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas fait de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. On dit une fois pour toutes, c'est pour ceux qui vont lire peut-être tout le chapitre 9, ils vont comprendre que, par exemple, pour la fête annuelle des expiations, le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois, pour faire l'expiation du peuple.
Et puis il sortait.
Oui. Or, tout ça, c'était l'image d'un homme qui allait aussi faire ça une seule fois, Jésus-Christ de Nazareth, pas pour entrer dans une tente fabriquée par les hommes, mais c'était pour entrer dans une tente fabriquée par Dieu lui-même, une tente éternelle, un tabernacle éternel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est le bon samaritain. Lui seul pouvait faire ces choses. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec
son propre sang, voilà. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc on n'a pas besoin de revenir plusieurs fois en faisant plusieurs sacrifices, non, une seule fois pour toutes.
Pour sauver cet homme qui a quitté Jérusalem et qui descendait vers Jéricho, il fallait un homme qui devait apporter la rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés
sanctifie
et procure la pureté de la chair, combien plus
le sang de Christ.
Voilà. Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même.
Sans tâche.
À Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant?
Tu sais, quand je lis ce genre de verset, je me dis que ceux qui partent en enfer, ceux qui ne veulent pas servir Christ et qui meurent et qui vont vivre éternellement loin de Dieu, c'est parce qu'ils ne voulaient vraiment pas faire attention à ce que Dieu disait dans la Bible. Tu imagines, le sang des boucs, le sang des animaux ont purifié, ont donné un certain soulagement. Alors si maintenant le sang de Christ a été versé, combien plus? Et tu as quand même des gens qui doutent, qui disent non, qui veulent même prouver que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Mais si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, alors nous qui sommes ce type de personnes-là, comme dans la parabole du Samaritain, ces gens à demi-morts, mais on est perdu. On est perdu.
Oui, et ça, c'est malheureux pour ceux qui doutent de la personne de Jésus. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Il est notre rédempteur.
Nous ne prêchons pas la religion. Nous parlons, nous prêchons Jésus-Christ.
Le rédempteur. C'est lui le rédempteur qui pouvait sauver cet homme. C'est lui qui nous a trouvés à demi-morts et qui nous a ramassés. Ainsi, si je peux me référer à ce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Il a présenté le Rédempteur comme celui qui allait venir dans le futur. Mais nous, on ne dira pas comme Job, il se levera. Non, pour nous, le Rédempteur s'est déjà levé. Jésus de Nazareth, il s'est déjà levé, c'est là 2000 ans. Ce Rédempteur-là, c'est lui qui nous a sauvés et qui continue à sauver.
Et qui veut encore sauver.
Oui.
Et qui cherche, tu imagines, il cherche encore des gens à sauver.
Oui. Les gens qui sont jusqu'à ces jours à demi-mort, ils ne savent pas quoi faire.
Le Samaritain qui voyage, il circule dans les rues de Jérusalem, dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Paris, dans les rues de Tokyo, de New York, de Buenos Aires, de Rio de Janeiro. Il cherche des gens à sauver.
Oui, notre Rédempteur est présent. Il s'est déjà levé. Nous ne dirons pas qu'il s'élèvera. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, on n'a pas dit la lumière s'élèvera. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont vu la lumière. Ce n'était pas la lumière du soleil. Ce n'était pas la lumière d'une lampe quelconque. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus. Parce que la lumière, c'est Jésus.
Le salut s'est levé.
Oui, le salut s'est déjà levé. Jésus s'est déjà levé. Et Jésus est là présent. Il frappe à la porte de mon frère, de ma sœur, lui demandant, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends, ouvre la porte, j'entrerai. Le verset 2 d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53, 2. Je peux commencer au premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, c'est lui le bras de l'Éternel. Regardez, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Voilà, Il s'est déjà levé. Il est venu pour nous sauver. Mais beaucoup n'ont pas cru en lui. Regardez le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est venu nous apporter la vie. Jésus-Christ est venu nous apporter la délivrance. Il est vraiment comme Salomon l'a dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Il a dit, voici ce que mon âme cherche encore et ce que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. C'est-à-dire, il est le seul homme entre mille. Le seul homme qui pouvait faire ce travail de sauver. Chose que le sacrificateur, ne pouvait pas faire. Ça, c'est très important. Il y a aussi un verset qui me captive quand je pense au travail du bon samaritain. C'est la scène de Lazare. Lorsque Lazare est mort, il fallait 3 jours pour que Jésus revienne. Et plus tard, Jésus, en fait, dans les miracles de Jésus, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent seulement des miracles. Mais Jésus-Christ, c'est vrai, il a fait des miracles. Mais dans ces miracles, il y avait toujours une leçon. Par exemple, quand il a fait le miracle de pain, il a nourri les gens de pain. Le jour suivant, les gens l'ont suivi. Il va leur dire que je suis le pain de vie. C'est-à-dire, quand il faisait un miracle, après il leur donne la leçon. La leçon, vous avez mangé du pain, mais le véritable pain, c'est moi. Donc je vous ai donné le pain pour vous dire que c'est moi le pain. Par exemple, il a rencontré un aveugle né. Mais plus tard, il voulait juste enseigner qu'il est la lumière. Parce que sans la lumière, on ne peut pas voir dans Jean chapitre 9. Et dans l'histoire de Lazare, plus tard, il va montrer qu'il est la vie, la résurrection et la vie. Oui, aucun sacrificateur n'a été la résurrection et la vie. Aucun lévite n'a été la résurrection et la vie. Aucun roi, aucun prophète.
Mais tu sais d'une certaine manière, le fait de ramener, de prendre soin de ce monsieur-là, qui était tombé entre les mains des brigands, c'est une forme de résurrection.
Oui, oui. Mais Jésus l'a dit aussi, il dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'entendront vivront. Mais qui sont ces morts? Ce sont tous ces hommes qui marchent dans le péché, ils entendront tel qu'on est en train de parler là. Ils entendent la voix du Fils de l'homme, parce que la voix du Fils de l'homme c'est la parole, c'est pas nous.
C'est pas nous.
Et quand vous entendez la voix, vous croyez en cette parole, enfin, vous vivez. Mais quand vous ne croyez pas la parole, vous restez mort, vous restez cadavre. Et personne d'autre ne va trouver la solution
pour vous. Vous confirmez votre mort.
Oui, même aucun sacrificateur ne viendra vous sauver, aucun lévite. Parce qu'il y a un temps, ça fait très longtemps, dans l'époque de Martin Luther, où il y avait ce qu'on appelait le trafic des indulgences. Il y avait les indulgences. Il fallait donner quelque chose pour obtenir le pardon. Vous n'avez pas besoin de ça.
Il y a eu aussi, dans certaines églises, il y a quelques siècles en arrière, oui, où il fallait acheter, pas le pardon, mais le salut. Il fallait donner une certaine somme d'argent pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés.
Jésus ne peut pas se comporter comme s'est comporté le sacrificateur. Ils ont vu les plaies infectes.
Il n'avait plus rien.
Ils l'ont vu peut-être puant. Ils se sont écartés, ils ne se sont même pas arrêtés. Ils sont passés outre. Mais Jésus, pour lui, la puanteur du péché, ça ne lui dit rien. Il est venu pour ça. C'est ça son job. C'est ça son travail. Jean chapitre 11. Je suis au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur. Ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Dieu dit, ôte cette pierre d'incrédulité, ôte cette pierre-là qui te bloque à rester toujours dans le mal, parce que je voudrais ôter ton péché, je voudrais te sauver, ramener la vie. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Mais pour Marthe, il sentait déjà. C'est la même chose pour les autres. Ils ne pouvaient plus rien faire. Quand Jésus-Christ est venu ce jour-là, ils ont dit, mais il a guéri. Il a guéri beaucoup de gens. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose pour cet homme. Il est la résurrection et la vie. Le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Aucun sacrificateur n'est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même quand il serait mort, même quand il serait mort. Comment on peut comprendre ce verset? Toi, tu meurs, mais tu crois en Jésus encore. Ah, c'est quand un cadavre est dans une tombe, il peut encore croire en Jésus. Jésus ne voulait pas parler des morts qui sont dans les cimetières. Il parlait des morts qui marchent. Il y a des morts qui marchent. Des cadavres. Oui, des morts vivants. C'est comme ça que Jésus pulcre blanchi. Pourquoi il les appelait ainsi? Parce que c'était des morts. C'est-à-dire, il dit qu'ils paraissent beaux dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens...
Il y a la pourriture qui a déjà
oui,
attaqué. Quoi.
Qui ont en eux la pourriture à cause du péché. Hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui croit en Jésus, il vivra. Même si il mourait. En fait, aussi dans ce sens, c'est pour dire que tu as cru en Jésus, tu as un frère qui est décédé, mais il était chrétien. Oui, pour les hommes, il est mort, mais pour Dieu, il n'est pas mort. Il vit. Il est parmi les vivants. Et regardez le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi. C'est pareil. Les pasteurs, ils meurent. Comment Jésus dire qu'il ne mourra jamais? Oui, quand tu crois en Jésus, physiquement, tu vas mourir. Mais ton esprit sera toujours en communion avec Dieu.
Celui qui est né de nouveau est passé de la mort à la vie.
Maintenant, entre nous, qui pouvait faire ce travail? Qui pouvait faire en sorte que, même quand quelqu'un meurt, son esprit est toujours en communion avec Dieu? Est-ce qu'un sacrificateur l'a fait? Non. Aucun lévite ne l'a fait. Aucun roi ne l'a fait. Aucun prophète ne l'a fait.
Aucun pasteur ne l'a fait.
Aucun pape, aucun prêtre, aucun évêque, aucun moine.
Aucun évangéliste, aucun soi-disant homme de Dieu, prophète.
Personne
ne peut sauver les hommes, ne peut purifier, ne peut séparer l'homme de son péché, si ce n'est que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul.
C'est pour ça que c'est triste de voir tous ces hommes des dieux qui se glorifient. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai délivré ceci. Moi, ils vont même plus loin. Moi je partage pas cet avis. Vous voyez des gens qui brandissent, des gens qui tombent. Hein? On filme des gens qui tombent. En fait, je ne sais pas les intentions qui sont collées à certaines de ces personnes. Ils veulent peut-être montrer que vous voyez, moi je suis. Non, celui qui est, c'est Jésus. Parce que lui disait, je suis le chemin. Je suis. Non, c'est lui qui mérite toute la gloire. Nous, nous ne sommes que des hommes. Hein? Jésus-Christ a même dit, quand vous faites quelque chose, hein, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Hein? C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui le chemin, la résurrection et la vie. C'est lui. Donc nous devons donner toute gloire à Jésus. Parce qu'il est venu sauver l'homme adamique que nous étions. Il est venu sauver le pécheur que nous étions. Et nous redonner la vie. La vie que nous n'avions pas. Et il nous prépare beaucoup d'autres choses merveilleuses. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Très important. C'est-à-dire, Jésus-Christ est venu montrer le chemin. C'est-à-dire, comme lui, il est ressuscité, eh bien, il nous dit, nous aussi, nous allons ressusciter. Nous aussi, nous reviendrons. Ça, c'est un exemple très important. Et nous reviendrons avec des corps incorruptibles. Des corps qui ne pourront jamais pourrir. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Jésus. Il est vraiment celui qui nous donne la vie, qui vivifie notre personne. Ceci me fait penser aussi à David. David a fait quelque chose que ses grands frères ne pouvaient pas faire. Ils étaient robustes, les trois. Ils sont partis au front, mais ils n'ont pas pu vaincre Goliath. Tu connais cette histoire.
Tout à fait.
Mais simplement, curieusement, on a envoyé David. Allez apporter seulement du pain. Il était la quatrième personne. Il est arrivé avec son pain. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre cet incirconcis? Oh non, il va épouser la femme du roi.
La fille du roi.
Ah bon? Donc en fait, on peut aussi dire en quelque sorte, c'est pour épouser un jour la fille du roi que David a accepté de combattre Goliath. Or, le véritable David, c'est Jésus-Christ. Il a fait ça pour faire en sorte que nous soyons Jésus. Aucun sacrificateur ne pouvait faire ça parce que nous sommes l'épouse de Christ. Parce que nous sommes son épouse. Nous sommes encore sur terre, mais bientôt nous célébrerons les noces avec le roi des rois. Nous lui disons merci parce que les choses que les sacrificateurs et les lévites ne pouvaient faire quand ils ont vu cet homme à demi-mort, lui, le bon samaritain, le véritable David, il l'a fait parce qu'il nous aime. En tout cas, que la gloire lui revienne, hein, il le mérite.
Mon frère, ma soeur, vous qui écoutez cette émission en ce moment, Jésus-Christ est le seul qui puisse séparer l'homme du péché, le seul qui puisse réconcilier l'homme et Dieu, le seul qui, par son sang, a racheté l'homme. Il n'y a personne d'autre. Ah, un soi-disant prophète X, un soi-disant pasteur Y, un soi-disant pape X, un soi-disant évêque Y. Personne ne sauve si ce n'est que Jésus-Christ. Même pas la religion, ni l'Église catholique, ni l'Église protestante, ni les témoins de Jéhovah, ni les Kimbanguistes, ni X ou Y. Non, le seul qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu frapper à votre porte aujourd'hui pour vous dire, si j'entre dans votre vie, je vous purifierai de toute souillure, vous serez sans tache, sans rides, vous serez saint aux yeux de Dieu parce que vous avez reçu dans votre vie le Saint d'Israël.
Amen.
Mon frère, ma sœur, si c'est cela votre prière, votre désir, répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message, et je viens humblement te demander pardon. Pardon parce que j'ai marché loin de toi. Pardon parce que j'ai marché loin de la parole de Dieu, loin de Christ, loin de ta personne. Je m'humilie devant toi et je te demande pardon. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je reçois Jésus-Christ maintenant comme sauveur et Seigneur personnel. Merci pour ton amour. Merci pour ce sacrifice à la croix il y a 2000 ans.
Amen.
Merci pour ce Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à rester attaché à lui, le chemin, la vérité et la vie.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.